يغير فيه مجبرا كما قلت لك، هو بين هذا وبين هذا أين يذهب؟ فبيحاول يمسكوا العصا من المنتصف كما يقال.
وهذا غير جيد أستاذ. دكتور فكري سليم، أستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة الأزهر، شكرا جزيلا لك على قبول دعوتنا ونزولك ضيفنا اليوم على حوار النشرة.
أهلا وسهلا بحضرتك.
شكرا جزيلا.
ومستمعيك الكرام.
شكرا.
أهلا وسهلا.
شكرا.
أهلا.
الجزائر انترناسيونال لو جورنال.
Au sommaire, le président de la République Abdelnadjid Tebboune reçoit le vice-président, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhaïl Bogdanov. Le premier ministre Nadel Arbaoui préside la cérémonie de signature de la convention portant organisation à Alger de la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine en 2025. La mission de l'Algérie auprès de l'ONU appelle toutes les parties à la retenue, à éviter l'escalade dans la région et au respect du droit international. L'antisioniste poursuit son agression génocidaire contre les Palestiniens dans la bande de Gaza pour le 192e jour consécutif. Netanyahou décide de reporter l'offensive terrestre prévue contre la ville de Rafah sous les pressions de la communauté internationale. Mesdames, Messieurs, bonjour. Est avec vous Zahwa Kelo pour ce 13h30. Je vous disais en titre, le président de la République, Abdelnadjid Tebboune, a reçu ce lundi à Alger le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhaïl Bogdanov. La rencontre s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem, et du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Lounes Magraman. Le président de la République, Abdelnadjid Tebboune, a reçu hier le ministre des Affaires étrangères de Biélorussie, Sergueï Alienik. Ce dernier a affirmé que, à l'issue de l'audience, avoir remis au président de la République un message de la part de son homologue biélorusse, Alexandre Loukachenko, en vue d'insuffler unissant les deux pays. Le chef de la diplomatie biélorusse a été également reçu par le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf. Les deux parties ont convenu de se concerter sur les différentes questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment l'agression sioniste à l'encontre du peuple palestinien dans la bande de Gaza. Les deux parties ont également affirmé leur convergence de vues et de positions concernant la nécessité de faire prévaloir le dialogue et d'adopter les approches pacifiques dans le règlement des différentes crises. Je vous propose de l'écouter.
Nous appelons la communauté internationale dans son ensemble à prendre les mesures indispensables de manière urgente en vue de résoudre l'ensemble des crises à l'effet de renforcer les efforts consentis afin de concrétiser la stabilité tout en faisant prévaloir la voie du dialogue et des solutions pacifiques, politiques et diplomatiques.
Ces propos ont été recueillis par Sofiane Zadi. Autre actualité, le premier ministre Nadel Arbaoui préside à Alger la cérémonie de signature par le gouvernement algérien et la Banque africaine d'import-export de la convention portant organisation à Alger de la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine en 2025. La cérémonie de signature se déroule au centre international de conférence Abdelah Tefrah Hall en présence de membres du gouvernement, du conseiller auprès du président de la République chargé du commerce, de l'approvisionnement, du contrôle et de l'import-export transport Kamal Rizik et de l'ancien président nigérian, président du conseil consultatif de la foire commerciale intra-africaine. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre du commerce et de la promotion des exportations Tayeb Zitouni a affirmé que l'organisation âgée de la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine intervient dans le cadre de la concrétisation de la stratégie du président de la République Abdelaziz Tebboune visant à renforcer l'intégration africaine et à promouvoir la coopération économique entre les pays du continent.
La disponibilité des moyens et des structures de base ainsi que les moyens logistiques et organisationnels ont permis à notre pays d'abriter ce rendez-vous économique continental important. La tenue de cette édition en Algérie intervient dans le cadre de la concrétisation de la stratégie du président de la République Abdelmadjid Tebboune qui vise à consolider la complémentarité africaine et la coopération économique entre les pays du continent dont l'objectif est de bâtir une base économique solide pour la réalisation des objectifs du développement durable pour les populations africaines.
De son côté, Kamal Hamani, président de la Chambre algérienne de commerce et de l'industrie, a révélé que cet événement regroupera 130 pays africains. Selon lui, ce rendez-vous permettra de promouvoir l'intégration économique africaine et de renforcer les liens commerciaux entre les nations du continent.
Aujourd'hui, nous allons signer une convention avec l'IATF pour l'organisation du salon en 2025 qui va regrouper un peu plus de 2000 entreprises ainsi que la participation de 130 pays africains. Là, et nous attendons de cette édition la signature d'une convention d'échange industriel et commercial de 40 milliards de dollars. Donc c'est un événement très important que la Chambre de commerce aussi d'industrie organise en partenariat avec l'IATF. Vous savez que l'IATF, elle a été créée par l'Afrixim Bank, c'est l'Africaine de la Banque africaine de l'export, ainsi que l'Union africaine et la ZDECAF, la zone africaine de libre-échange. Je pense que cette occasion nous est donnée pour donner un bon tournant à l'économie nationale.
Ces propos ont été recueillis par Ahlam Bouzaïr. La mission de l'Algérie auprès de l'ONU a affirmé que l'Algérie suivait avec une grande préoccupation, une profonde inquiétude, les développements survenus au Moyen-Orient suite à l'attaque militaire iranienne ayant ciblé des sites militaires de l'entité sioniste en riposte à l'agression contre l'ambassade iranienne à Damas, appelant toutes les parties à la retenue pour éviter toute escalade dans la région. Dans son allocution, le vice-représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU, Nassim Gawawi, a rappelé que l'Algérie avait mis en garde en début de ce mois contre les dangers de ne pas mettre un terme au comportement de l'occupant et de son arrogance dans la région. Je vous propose de l'écouter.
Nous appelons toutes les parties à la retenue et à éviter l'escalade dans la région du Moyen-Orient qui passe par une situation critique qui impose à tous les acteurs de la communauté internationale à adopter la voie de la sagesse pour dépasser ensemble cette phase critique. Nous insistons sur le fait que la paix et la sécurité internationale ne peuvent être réalisées sans le respect des résolutions des Nations Unies et du droit international. La politique du deux poids, deux mesures et la violation du droit international et son utilisation pour des intérêts personnels menace notre système mondial fondé sur le droit international. C'est la raison pour laquelle il est primordial de revenir sur les véritables origines des crises dans la région qui ne sont autres que l'occupation sioniste. Et les derniers développements ne doivent pas faire de l'ombre à la question centrale qui est l'agression sioniste sur la bande de Gaza.
Le ministre iranien des Affaires étrangères et le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Joseph Borrell, ont eu hier un entretien téléphonique lors duquel ils ont abordé les derniers développements au Moyen-Orient. Lors de leur entretien, le chef de la diplomatie iranienne a déclaré que les agressions répétées de l'entité sioniste, notamment sa récente attaque meurtrière contre le consulat iranien à Damas en Syrie, constituaient une violation flagrante des conventions de Vienne et près de la ligne rouge de l'Iran. Il a reproché aux Nations Unies, au Conseil de sécurité de l'ONU, leur inaction face à l'attaque sioniste, soulignant que l'Iran n'avait d'autre choix que de sanctionner l'entité sioniste dans le cadre de son droit légitime à l'autodéfense. Et les aéroports iraniens dont les deux de Téhéran ont repris ce lundi leur activité qui avait été suspendue ou perturbée suite à la riposte iranienne à l'attaque menée par l'entité sioniste. Le ministre turc des Affaires étrangères a souligné le désir de la Turquie d'éviter une nouvelle escalade dans la région à la suite de l'attaque de représailles contre l'entité sioniste et a fait savoir qu'Ankara souhaitait que les actions susceptibles d'aggraver les tensions cessent. Les détails depuis Istanbul avec Zineb Benzaoui.
Le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan a exprimé à son homologue iranien Hussein Amir Abdullahian lors d'un appel téléphonique le souhait d'Ankara de ne pas voir une nouvelle escalade dans la région après les représailles de Tahran contre l'entité sioniste. Abdullahian a indiqué que l'opération de représailles contre l'entité sioniste était terminée et que l'Iran ne lancerait pas de nouvelles opérations à moins d'être attaqué. D'autre part, le vice-président turc Cevdet Yılmaz appelle à se concentrer à nouveau sur les violations humanitaires qui se produisent dans la bande de Gaza. Le vice-président turc a souligné que son pays poursuivrait ses efforts pour garantir un cessez-le-feu, l'acheminement ininterrompu de l'aide humanitaire au peuple palestinien et le début du processus politique visant à établir une paix durable sur la base de deux États. Yılmaz estime que le respect du droit par la communauté internationale, le respect de la vérité et la prise de position pour mettre fin aux attaques sionistes sont une nécessité historique, stratégique et humanitaire. Depuis Istanbul, Zineb Benzaoui, Radio Algérie Internationale.
Toujours dans l'actualité internationale, l'entité sioniste poursuit ce lundi son agression génocidaire contre les Palestiniens dans la bande de Gaza pour le 192e jour consécutif, affirmant que l'attaque iranienne sans précédent du week-end ne la fera pas dévier de ses objectifs. Netanyahou a décidé hier soir de reporter l'offensive terrestre prévue contre la ville de Rafah. Cette décision intervient une semaine après que Netanyahou a annoncé une date pour l'action à Rafah, mais ces derniers jours, il a finalement choisi de la repousser. Quelles sont les raisons qui ont poussé justement Netanyahou à prendre cette décision? Élément de réponse avec Milad Ben Nasser.
Le premier ministre de l'entité sioniste, Benjamin Netanyahou, semble vouloir reporter la date de l'opération terrestre à Rafah dans le sud de la bande de Gaza, une semaine après avoir annoncé que la date avait déjà été fixée. Selon le politologue palestinien Amin Maqboul, cette décision est largement influencée par les impératifs de sa survie politique.
Le premier ministre de l'entité sioniste Netanyahou gère les affaires dans le but de servir ses intérêts personnels et politiques, ainsi que de maintenir son pouvoir, d'autant plus qu'il y a corruption et sabotage au sein de son gouvernement, en plus de la pression internationale croissante et des scrutins fréquents à travers le monde. La résistance palestinienne a réussi à faire échouer les plans de Netanyahou, démontrant ainsi sa résilience face à ses ambitions et à ses attaques.
Des facteurs à la fois internes et externes ont contribué à ce report, reflétant les pressions auxquelles Netanyahou fait face dans la gestion des opérations militaires de l'occupation sioniste.
Tous ces éléments s'ajoutent aux divisions internes au sein du gouvernement sioniste. Il existe des dissensions et un mécontentement envers la politique menée par le premier ministre de l'entité sioniste Netanyahou, ainsi qu'une opposition grandissante visant à le renverser. Ces divers facteurs le poussent à hésiter à mettre en œuvre le reste de ses projets. De plus, nous observons la pression exercée par l'administration américaine sur lui en raison de la manière dont il a altéré l'image des États-Unis devant le monde
pillés que se présentent comme défenseurs de la paix et des droits de l'homme.
Confronté aux divisions au sein de son gouvernement, à une opposition grandissante et aux pressions de l'administration américaine, la vie politique de Netanyahou est menacée, ce qui le met devant l'obligation de revoir ses projets.
Toujours en Palestine occupée sur le terrain, 5 Palestiniens ont été blessés ce lundi à l'aube dans des bombardements de l'occupant sioniste et ont visé les environs de l'hôpital européen au sud de Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza. L'occupant sioniste a détruit par ailleurs des terres agricoles dans le quartier d'El Manara au sud-est de Khan Younis. L'armée sioniste a également ciblé le sud-est de la ville de Gaza. Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza s'est alors dit à 33 729 martyrs et plus de 76 370 blessés depuis le 7 octobre dernier. Il est 13h45 minutes sur les ondes de Radio Algérie Internationale. On passe au sport maintenant. Le Moulidia d'Alger s'est qualifié hier à la demi-finale de la Coupe d'Algérie de football en battant Wydad de Tlemcen sur le score de 2-0. Un match disputé hier soir, je vous le disais, au stade olympique du 5 juillet. Plus de détails avec vous, Walid Bouawish, bonjour.
Bonjour. Ah oui, le Moulidia d'Alger s'est qualifié pour la demi-finale de la Coupe d'Algérie en éliminant en quart de finale hier le Wydad de Tlemcen sur le score de 2-0, un match disputé au stade du 5 juillet à Alger. Le Moulidia d'Alger rejoint donc le Serbe Louzdad et le CS de Constantine qui se sont qualifiés pour les demi-finales devant respectivement l'Espérance de Mostaganem et le S Ben Aknoun. Après cette qualification pour le dernier carré, on écoute l'entraîneur du Moulidia d'Alger, Patrice Bommel.
Le plus important, c'était de pouvoir se qualifier pour les demi-finales où on va retrouver les quatre gros de ce championnat, on va dire. Donc ça va être passionnant. Et on se remet, ce soir on savoure et dès demain on se remet au travail. On va attendre le tirage au sort. Que ce soit Constantine, que ce soit le CRB ou l'USMA, ça sera quasiment deux finales sur ces demi-finales. Donc je pense que toute l'Algérie va être excitée à suivre cette compétition, elle va être magnifique.
Le dernier match des quarts de finale aura lieu demain au stade 19 mai 56 à Annaba qui opposera l'USM Alger et l'US Biskra. En Europe, un premier titre historique en Bundesliga pour le Bayern Leverkusen. Large vainqueur hier à domicile face à Werder de Brême, 5-0. Le Bayern Leverkusen s'est adjugé le premier titre de son histoire à l'occasion de la 29e journée de la Bundesliga. Toujours invaincu en Bundesliga, Leverkusen est en outre qualifié pour les demi-finales de la Ligue Europa avec un bilan impressionnant. 39 victoires, 4 matchs nuls en 43 matchs, toutes compétitions confondues. Les joueurs de l'entraîneur espagnol Xavi Alonso visent également le triplé puisqu'ils sont qualifiés pour la finale de la Coupe d'Allemagne prévue le 25 mai prochain face à Kaiserslautern au stade olympique de Berlin. En Angleterre, Liverpool battu à domicile par Crystal Palace 1-0 et Arsenal battu par Aston Villa 2-0 ont laissé Manchester City prendre seul la première place de la Premier League avant 6 journées de la fin de la compétition. L'équipe de Jürgen Klopp occupe la dernière marche du podium à la 3e position avec 71 points en compagnie d'Arsenal également avec 71 points 2e alors que Manchester City leader avec 73 points. Et loin du football en volleyball, l'ASV Blida et le Wydad de Tlemcen, les deux représentants algériens au championnat d'Afrique des clubs au Caire en Égypte, ont connu hier des fortunes diverses à l'occasion de la première journée de la compétition qui se poursuivra jusqu'au 26 de ce mois. Versé dans le groupe C, l'ASV Blida a bien entamé le tournoi en s'imposant devant les Rwandais de Gisagara sur le score de 3-1. En revanche, le Wydad de Tlemcen, qui a hérité du groupe B, s'est incliné devant le club tunisien, le Mouloudia Boussalem, sur le score de 3-0. Il s'agit de la première participation continentale pour le club algérien. On termine avec du tennis et le tournoi Masters 1000 de Monte Carlo. Le grec Stefanos Tsitsipas, 12e au classement mondial, a remporté hier le Masters 1000 de Monte Carlo en battant le Norvégien Gasper Ruud sur le score de 6-1, 6-4. Double finaliste en Grand Chelem Roland Garros 2021 à l'Open d'Australie 2023, Tsitsipas a décroché hier le 11e titre de sa carrière.
Merci Walid Bouawish pour toutes ces précisions. On arrive ainsi, mesdames et messieurs, à la fin de cette édition. Tout de suite, le rappel des titres. Le président de la République, Abnadjit Tebboune, reçoit le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhaïl Bogdanov. Le premier ministre Nadel Arbaoui préside la cérémonie de signature de la convention portant organisation Alger de la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine en 2025. La mission de l'Algérie auprès de l'ONU appelle toutes les parties à la retenue, à éviter l'escalade dans la région et au respect du droit international suite à la riposte iranienne à l'attaque menée par l'entité sioniste. L'entité sioniste poursuit son agression génocidaire contre les Palestiniens dans la bande de Gaza pour le 192e jour consécutif. Netanyahou décide de reporter l'offensive terrestre prévue contre la ville de Rafah sous les pressions de la communauté internationale. Ce jingle marque donc la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite. La page météo présentée par Hélène Herbach, suivie de l'entretien du journal présenté par Wassila Bouabid. On écoute.
Les couleurs du ciel. Les prévisions météo restent agréables avec un ciel dégagé faisant place à des bancs de nuages bas en matinée sur la moitié nord et s'offrant quelques pluies sur les hauts plateaux et les Aurès s'améliorant l'après-midi sur le centre et rattaché à des vents vifs de 50 à 60 km/h vers le centre-nord. Les régions sud reçoivent aussi un temps nuageux avec des pluies sur le nord Sahara, les oasis, la région de Janet et l'extrême sud s'améliorant en soirée. Les autres régions sahariennes conservent soleil et horizon bien dégagé. Les températures, quant à elles, sont constantes avec donc toujours un peu de fraîcheur, notamment au-dessus de la région sahélo-saharienne. Prévoyez 17 degrés à Raldaya, 19 degrés à Béjaïa, 20 degrés sur Alger, la capitale, 21 degrés prévus à Betna, 22 degrés sur Oran, Tizi Ouzou et Constantine, 23 degrés à Hassi Messaoud, 24 degrés pour Tlemcen, 25 degrés pour Adrar, 26 degrés au Sahara central à Ain Salah, 28 degrés du côté de Taman Razet et Janet et enfin 35 degrés sur Ain Ghazem. Enfin, pour clôturer notre bulletin, il faut ce lundi 15 avril 2024 s'adapter encore à un bulletin météo spécial pluie touchant le sud du pays. Prévoyez de 20 à 40 mm de pluie jusqu'à 9h sur Ravdaya, le nord d'El Mnira et le nord d'El Oued, se prolongeant à 12h environ sur le sud de l'Arouat, le sud de Djelfa, le sud de Ouled Djellal, la région d'El Mreyer et la région de Tougourt.
L'interview du journal.
L'interview du journal.
Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cet entretien du journal. Le prix du baril de Brent va nettement augmenter. Les tensions géopolitiques constituent le principal facteur de cette hausse. Pour en parler avec nous, l'expert en questions énergétiques et ancien PDG d'une filiale de Sonatrach, Monsieur Barded Mendouche. Monsieur Mendouche, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Mendouche, voilà, les derniers développements semblent avoir sensiblement impacté le marché pétrolier qui a immédiatement réagi au lendemain de la riposte iranienne.
Oui, le marché pétrolier mondial a réagi suite à des raisons conjoncturelles et géopolitiques. Mais en fait, il faut savoir que le prix du baril dépend des fondamentaux qui sont l'offre, la demande et le cours du dollar par rapport aux autres devises. Donc, plus la demande est grande, plus les prix sont plus hauts. Et inversement, plus l'offre est réduite, plus également les prix montent. Traditionnellement et historiquement, durant cette période, c'est-à-dire durant janvier, février, mars, les prix ont tendance à augmenter pour la simple raison que le prix qui est annoncé aujourd'hui, c'est un prix qui sera applicable d'ici un mois, c'est-à-dire c'est des contrats à terme, d'ici un mois ou deux mois. Mmh. Et donc, on sera en période estivale, et la période estivale est une période où les trois modes de transport sont caractérisés par une grande mobilité, à savoir le transport terrestre, le transport maritime et le transport aérien. C'est une période de vacances. Donc, le 70% du pétrole est utilisé pour la fabrication de carburant, essence et diesel. Mmh. Donc ça, c'est déjà un facteur, on va dire, historique. Maintenant, cette augmentation, on a noté que depuis le début de l'année, depuis janvier, il y a eu plus 20% sur le Brent. Mm-hmm. Et donc, en passant, le pétrole algérien qui est référencé Sahara Brent, qui est de meilleure qualité, il faut rajouter au prix du baril Brent qui est aujourd'hui de $92, entre 3 et 5 dollars, compte tenu de sa légèreté. Et il est plus demandé par l'industrie de raffinage. Mm-hmm. Il y a également, avant cette frappe entre Iran et Israël, il y a un autre événement qui a impacté à la hausse le prix du baril, c'est les frappes des Houthis en mer Rouge, mm-hmm. ce qui a contraint les méthaniers et les pétroliers à contourner et avoir une distance plus longue, donc une consommation de carburant et le diesel pour les bateaux plus importante. Et donc, une demande plus importante. Mm-hmm. Le troisième facteur, c'est celui des indicateurs optimistes sur la croissance mondiale qui est tirée en haut par la Chine, l'Inde et les États-Unis, où les chiffres de croissance sont plus optimistes, meilleurs que les précédentes prévisions de l'Agence internationale de l'énergie. Et donc, si on se base sur les analyses de l'OPEC+, la consommation de 2024, en dehors de ces événements géopolitiques, et ces prévisions et ces analyses ont été faites avant les frappes Iran-Israël, la consommation qui était de l'ordre de 98 millions de barils jour, sur 2024, elle devrait être autour de 104 millions de barils jour, donc une demande de 6 millions de barils jour, de plus, avec une offre qui ne suit pas pour la simple raison que l'OPEC+ a décidé de continuer la réduction de production de 2,2 millions de barils par jour jusqu'à fin juin 2024. Mmh. Donc tous ces événements combinés font que le baril augmente. Rajoutons à cela la crainte des traders pétroliers, donc qui achètent et qui revendent le gaz, d'avoir une insuffisance de l'offre. Et donc, ils ont tendance, dans cette situation, à augmenter à 100% leur stock.
Très bien.
Donc, c'est des stocks commerciaux.
Mmh. Monsieur voilà Mendoche, un petit peu la le situation. Constat
maintenant,
de la situation.
Scénarios.
Justement, on va revenir un peu plus tard sur les scénarios. Monsieur Mendoche, oui. Et justement, cette tendance haussière, va-t-elle se maintenir tout au long de l'année ou c'est seulement conjoncturel?
Donc, si on se base sur l'ensemble des analystes pétroliers, notamment des trois banques qui financent les actifs pétroliers, qui financent l'investissement pétrolier aux États-Unis et qui sont Bank of America and Goldman Sachs and Morgan Stanley. Ces trois banques ou les analystes de ces trois banques prévoient un pétrole d'ici à la fin d'année ou un prix de pétrole Brent d'ici à la fin d'année qui se situerait autour de $100. L'OPEC prévoit pour elle, les analystes de l'OPEC prévoient un pétrole qui se situerait entre 95 et $100. Indépendamment, ou ne tenant pas compte de ces événements conjoncturels. Maintenant, si c'est un événement conjoncturel qui est les frappes entre Iran et Israël, et si ça se perpétue dans le temps, là, il pourrait y avoir un rebondissement du marché pétrolier mondial. Et on pourrait avoir un prix qui pourrait même dépasser les $110 le baril.
Justement, Monsieur Mendoche, et face aux tensions géopolitiques, l'OPEC+ peut-elle poursuivre justement sa politique prudente qui a pu jusque-là maintenir un certain équilibre?
L'OPEC+ est un instrument de régulation du marché qui analyse régulièrement le marché mondial de pétrole en termes d'offres et de demandes. Et compte tenu que sa mission principale étant la défense de ses intérêts, des intérêts des membres de l'OPEC, donc d'ici à fin juin, la réunion va se faire et ils vont faire une analyse du marché et là ils vont décider. Est-ce que ils pourront injecter encore une quantité supplémentaire, c'est-à-dire déverrouiller la réduction de production, ou alors maintenir les réductions décidées actuellement. Dans le cas de ce deuxième scénario, c'est une décision qui va impacter encore la tendance à la hausse du prix du baril. Mm-hmm. De toute manière, il y a aussi un autre facteur, mm-hmm. c'est qu'aux États-Unis, le pétrole de schiste, il faut savoir que les États-Unis, qui actuellement, depuis ces dernières années, le premier producteur de pétrole au monde, avec 13,1 millions de barils jour à partir de pétrole de schiste. Ces trois derniers mois, ils ont eu quelques problèmes techniques et quelques problèmes de financement pour certaines sociétés pétrolières de taille moyenne et il y a eu une diminution de la production. Donc le marché